he said, you know, really I was reading a book to her, but she wasn't paying attention to me, so I masturbated.
That's not what it said.
That's exactly what it said.
No, you misunderstood. It's not, you misunderstood.
I didn't misunderstand.
That's not what I felt.
You stay away from me. I don't like your talk.
You misunderstood what I said. That's not what I said.
Yeah, well, I understood it that way.
Could you explain it to her? What I told you means?
I don't know. Is that the same thing?
You have to listen to me, because that's not what I said. You have to give me a check.
I give you a check. It's all right.
Is that what you said?
That's something
you said. I said, bring the book to her.
It's through my mind, you know.
That's not what it is.
J'espère que vous passez une excellente soirée. En tous les cas, notre studio est complet puisque on reçoit ce soir le cinéaste Henri-Jean Debon. Avec nous, Antonella, que vous ne connaissez peut-être pas ou ceux qui nous écoutent connaissent sûrement. Et David, qui anime l'émission avec nous. Ce soir, malheureusement, notre cher Lolo ne peut pas nous accompagner, mais ce sera pour la prochaine. Et David Cartelli est à New York pour le Festival du Film. Voilà. Écoutez, je vous laisse démarrer. David, quand tu veux, on part sur l'émission. C'est parti, mon kiki.
Bonsoir.
Bonsoir.
Ça marche. Bon, mais Henri-Jean, peut-être nous parler de ce qu'on vient d'entendre.
Daniel Johnston, et la chanson s'appelle Living Life. Si je me passe tout début, ça va être il avait moins de 20 ans. C'était sur les premières cassettes qu'il enregistrait. Ça s'appelait Songs of Pain, l'album. Voilà. Après, s'il faut raconter l'histoire de Johnston, c'est très,
alors,
très long.
Que
très...
Je t'ai demandé d'amener des morceaux comme ça sur ta clé USB. Pourquoi tu as amené...
Bon, Johnston, parce que je me vois mal aller quelque part, on me demanderait d'emmener la musique enregistrée sans amener Johnston, parce que c'est une idole, je pense, c'est un des plus grands artistes vivants, et je ne parle pas tellement de musique, en fait, il a toute une pensée sur la culture populaire américaine, qui est en aucun cas théorisé, c'est juste dans ce qu'il fait qu'il en parle énormément, et parce qu'il est aussi, et on a l'impression même que rien n'a été réfléchi, même s'il est malin comme un singe, mais il a aussi plein de problèmes psychiatriques. On sait qu'il en joue un petit peu. C'est un cas très complexe.
Et culture populaire américaine, ça veut dire quoi ?
Plutôt toute la sous-culture américaine. C'est-à-dire que lui, en fait, est parti beaucoup des super-héros. En fait, toute ça, la base de sa musique, c'est... ça a été les super-héros parce que les super-héros, pour lui, c'était aussi bien Captain America que les Beatles, mais aussi parce que Dieu était un super-héros potentiel et qu'il pouvait le définir comme un super-héros et parler de Dieu comme un super-héros. Et donc, c'est une manière de revisiter les grandes légendes américaines, mais avec un filtre de débile, un peu. Voilà. C'est-à-dire qu'il ne pourrait pas aller très très loin dans les explications et qu'il dirait... Donc il suffit d'écouter le dernier là, qui s'appelle The Death of Satan, qui revisite tout ça. Quoi. Voilà. Voilà. Et il parle tout ça très bien en fait. C'est un rapport au manichéisme qui est incroyable. Et dans un pays où depuis 20 ans, il y a quand même une... La bataille, en fait, elle est là, c'est-à-dire entre ceux qui parlent d'axe du mal encore, qui sont encore pourtant des gens, enfin des dirigeants, etc., mais en même temps avec toute une population qui a refusé toute idée de manichéisme, c'est-à-dire qui dit qu'il faut nuancer tout ça tout le temps. Et Johnston avait une autre manière que Bush de simplifier, une manière plus drôle, plus vraie, plus vivante, mais encore plus simplifiée que Bush. C'est incroyable.
Et dans les morceaux que tu as ramenés, du coup, une phrase, là, on parlait avant, c'était « Qu'est-ce qui fait qu'une chanson est un son ?»
Alors là, ce qu'on vient on l'a entendu tout de suite. Hein. Alors là, c'est plusieurs choses qui font le son. Il s'agit d'un enregistreur Sanyo à cassette, comme on ne peut plus en trouver, que tout le monde avait dans les années 70 jusque dans les années 80, et qu'il avait posé sur son piano. Tous les premiers disques sont enregistrés comme ça. Donc il y avait pas, il y a un micro extérieur qui ne fait pas d'équilibre entre la voix et le piano. Il suffit juste de mettre le magnétophone au bon endroit et le magnétophone prenait toutes les vibrations du piano en plus. Et il tape dessus comme un bourrin. Et donc la voix se fait aussi une petite place au milieu de la musique selon comment il joue. Donc déjà là il y a un son quoi qu'il joue. Mais ensuite la manière qu'il a de jouer. C'est une manière qui a intégré ce son-là. Il sait très très bien qu'est-ce qui va ressortir. Et à la fin, alors que c'est vraiment si on la réécoutait, c'est une chanson qui a une base vraiment de chanson, ce qu'on appelle une chanson pop. Sauf qu'il a une manière à la fin de refaire toutes les harmonies de piano et de les enchaîner, où on ne sait pas si on écoute une chanson pop ou si on écoute du Bach, du clavecin de Bach. C'est-à-dire avec le mélange qui fait qu'à un moment l'harmonie devient complètement diffuse. Et vertigineuse, parce que diffuse, parce qu'elle est plus très claire, parce que qu'est-ce qui est couplet, qu'est-ce qui est refrain, on sait plus, c'est plus très bien. Donc ça, c'est aussi assez symptomatique de Johnston, enfin de choses qu'il peut faire. Mais ça part d'une chanson pop, très, c'est un fan de façon des Beatles.
Alors et là, qu'est-ce que on va écouter notre musique ? Qu'est-ce que tu veux qu'on écoute ?
Qu'est-ce qu'on pourrait écouter pour refaire un... Alors, pour refaire un début, on pourrait écouter un autre truc qui est du son pour d'autres raisons. Mais alors que l'intérêt, c'est qu'on n'est plus du tout dans l'underground. C'est que c'est très, très connu. C'est une musique de John Barry qui s'appelle The Persuaders. C'est donc pour tous ceux qui ont plus de 20 ans. Je pense que tout le monde connaît Amicalement Vôtre avec Brett Sinclair et Danny Wilde. C'est la musique de Amicalement Vôtre.
C'est parti.
Thank you.
Et donc, nous venons d'entendre
The Passengers.
Un son,
John Barry.
Une chanson.
Bon, pas une chanson, il n'y a pas de parole, il n'y a pas de voix, mais de la pop musique, vraiment. Encore une fois, c'est une manière, si on parle plus tard du rapport, puisque je crois que c'est un des objectifs, parler de rapport son-image, si on se rappelle du générique de Amicalement Vôtre, qui montrait la montée d'un côté de l'anglais, de l'autre côté de l'américain, qui allait devenir ami, puisque c'est une espèce de buddy movie en série avant l'heure. Les images sont, à part quelques-unes, c'est important qu'il y en ait quelques-unes, mais sinon elles sont très très plates, elles sont très, très 70, assez vilaines, etc., etc. Et on a cette musique qui, par contre, amène un magnétisme incroyable. Et c'est cette musique-là qui raconte qu'il y a une destinée de chacun, qu'il y en a un qui va perdre toute sa fortune, etc., etc., etc. C'est la musique qui raconte. Les images, elles sont très, très quelconques dessus. Et le fait qu'il y en ait une ou deux qui puissent faire rentrer le magnétisme de la musique suffit. Et du coup, l'ensemble du générique devient très, très magnétique et très, très hanté. Alors que les images sont d'une laideur, c'est consternant, quoi. Mais ça, c'est vraiment une force. Il y a une image ou deux qui vont réussir à faire la passerelle et qui vont faire que la musique se répand dans tout le générique et lui donne cette humeur à la fois tragique, magique et magnétique. Voilà. Et en plus, et juste un détail, c'est que d'où ça vient, au-delà du fait que John Barry soit le compositeur des Bond et de plein d'autres trucs super, mais c'est un morceau qui a été enregistré sur une guitare fausse. Et c'est comme ça qu'il a été composé, parce que la guitare était fausse. Et sinon, il n'aurait jamais pu trouver cette mélodie-là. Donc c'est parce qu'il y a, ça peut-être qu'on en reparlera, mais il y a eu un frottement. Voilà. Et c'est pour ça qu'il y a eu un magnétisme, c'est parce qu'il y a eu un frottement. Et le frottement, là, venait de la fausseté. Il peut venir d'autres choses, mais il y a eu frottement grâce à la fausseté de l'instrument qui lui a donné son
magnétisme. Peut-être on en profite pour frottement. Est-ce que tu peux... Qu'est-ce que c'est un frottement ?
Là, c'est un frottement très, très technique, c'est-à-dire qu'il y a un problème de justesse. On entend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ce n'est pas parfaitement juste. Mais tout d'un coup, ça crée des harmonies pas possibles. Donc lui, il a mis que des instruments très très justes dessus, hein, des claviers, etc., qui tiraient vers la note fausse, mais qui, eux, étaient parfaitement accordés. Et ça donne un déséquilibre, un tragique, parce que je pense que elle était bien désaccordée. Enfin, elle était désaccordée là où il fallait. Ça pourrait être juste, c'est faux. Non, il y a eu le frottement au bon endroit. C'est un peu la lampe magique, en fait. Et tout d'un coup, ça a donné du vertige. Je pense qu'il y a énormément ça en composition, en musique classique, tout le temps. On l'entend un petit peu moins en musique populaire, mais ça existe pourtant. La preuve, c'est un morceau comme ça.
C'est quoi ? C'est un accident ? C'est la non-maîtrise ?
C'est un accident, mais c'est une compréhension de l'accident. C'est une manière de... non pas de jouer avec l'accident, mais de le voir. C'est toujours comme ça, en fait. De toute façon, même si on parle ensuite dans les images... Les accidents, que ce soit dans l'image ou dans la musique, ce qui compte, c'est surtout, c'est pas simplement de les créer, sinon on est vraiment dans le document, mais c'est d'arriver à les voir au moment où ils arrivent pour qu'ensuite on puisse, non pas les reproduire, mais les avoir enregistrés, les présenter, donc les utiliser tout simplement. Il faut pouvoir les avoir vus. Ouais. Parfois, on voit des. Je veux dire, donc, que ce soit dans les actualités, que ce soit dans les choses les plus non-images, les plus non-réalisées, etc. On voit des choses incroyables, on voit des plans incroyables, on voit des accidents incroyables. Mais au moment où on les voit, à ce moment-là, en tout cas, la personne qui les a montés ne les a pas vus et les laisse passer comme ça. Mais ça arrive très, très souvent. Il y en a aussi bien... à un moment, je sais que j'en enregistrais. Maintenant, c'est un peu différent parce que tout est un peu plus cloisonné. Mais il y avait dans des chasses et pêches... les trucs qu'ils mettaient pour les quotas la nuit sur TF1. Il y avait des très très longues émissions sur une famille de chasseurs et il y avait des plans parfois et des sons incroyables, etc. Pourquoi ? Parce que ça sortait du contrôle, en fait, TF1. Ils savaient qu'ils avaient besoin d'une heure de tel quota, de machin, etc. Donc, ils n'étaient pas du tout regardants là-dessus, comme s'ils auraient été sur un soap ou sur une actualité. Donc, ils disaient, bon, il y a une heure, ils ne regardaient pas. Et du fait qu'ils ne regardaient pas, il y avait des miracles.
Tu peux nous expliquer un accident de chasse et pêche, par exemple ?
Oui, c'est-à-dire, par exemple, une interview d'un père qui raconte comment il a fait ça. Et puis le fils arrive, il avait quelque chose à lui dire. Et à ce moment-là, ils ont pas coupé. Et ce qui commence par une interview finit par une discussion entre... Voilà, c'est un accident bateau, mais qui avait été gardé, je pense, parce qu'ils avaient besoin de métrage, pas parce qu'ils trouvaient ça bien. C'est plus parce qu'ils avaient besoin de métrage. Et donc, tout d'un coup, ça devient une discussion et la vie fait irruption.
Et tu guettais chasse et pêche pour trouver les accidents.
C'est parfois des souvenirs d'insomniaque, mais ça peut être aussi, effectivement, parfois de la... Ou alors, il y a des périodes aussi de... Je me rappelle de périodes d'ennui aussi, ça. Ou alors, par exemple, ou grippé aussi. Et, mais j'avais fait quelques compilations incroyables parce que j'enregistrais en direct, c'est-à-dire que je montais pas du tout après, j'enregistrais aussi bien quand c'était sur, à l'époque c'était encore, il y avait TV6, où il y avait des choses incroyables, ou alors les chaînes nationales la nuit, quand je parle vraiment, même la TNT évidemment n'existait pas, puis le câble, n'en parlons pas, c'est vraiment fin 80. Et je me faisais des compiles en enregistrant en direct. C'est-à-dire que s'il y avait un bout dans un film, je prenais le risque voilà, que ce soit qu'au final, bah, il ne se passe rien du tout. Mais je prenais un petit bout comme ça.
Et puis, David, est-ce que tu peux nous faire, du coup, pour nos chers auditeurs, une petite présentation quand même du personnage que nous avons dans ce studio? Parce que autant certains le connaissent bien, autant d'autres le découvrent. Comme c'est le cas pour nous, enfin pour moi en tout cas, peut-être pas pour vous. Donc je te laisse David.
Alors, Henri-Jean Debon, installé à Marseille depuis 2 ans.
Bonsoir.
C'est ça?
Ouais, voilà. Depuis 2 ans, oui.
Donc dans sa bio, je vais donner quelques dates. Donc 88, tu montes une société de distribution pour sortir le film épidémique de Lars von Trier.
Ouais, film dont personne ne voulait à l'époque, tout simplement pour ça en fait.
Que tu as vu où?
Que j'avais vu à la Cinémathèque. Tout le monde attendait énormément son deuxième film parce que Element of Crime avait cartonné à Cannes, etc. Et je me souviens de la réaction de tout le monde quand Epidemic est sorti, c'est que c'était lamentable, qu'il n'y avait rien à voir et machin. Alors que c'est un film 10 fois plus intéressant qu'Element of Crime et une incroyable idée de second film et qui montrait directement la maturité de du Gaillard et des 20 années qu'elle allait suivre de son œuvre. Je pense que c'est y a très peu de deuxième film comme Epidemic. Bon,
tu peux nous décrire un petit peu la force d'Epidemic.
Il y a quand même un truc incroyable dans Epidemic, c'est une parodie de tout ce qui a fait. Ça, si pour être un peu comparé à Godard là-dessus, c'est-à-dire que moi je me souviens d'une interview de Godard quand je crois que c'était après la sortie, je crois d'À bout de souffle ou Pierrot le fou, il disait mais le problème là, c'est qu'on a beaucoup aimé, qu'il va falloir maintenant faire quelque chose pour qu'ils soient tous désagréables, etc. Alors il le disait évidemment de manière ironique, mais c'était une manière lui de se mettre à l'abri de tics qu'il aurait pu avoir ou de et Lars von Trier, il y a une esthétique que tout le monde a louée énormément dans Element of Crime, très Wells, très avec des plans de grue incroyables, avec une lumière incroyable, très très sophistiquée, très précise, en même temps venant de la série noire beaucoup. Et Epidemic est un film en 16 mm bâclé, bien avant Dogma, etc., etc. C'est-à-dire l'année après Element of Crime, et dans lequel il y a des scènes parodiques de cette imagerie-là, filmée en 35. Et éclairé par le chef-op de Dreyer, Nick Benston, et à qui il demandait de faire une lumière très à la Dreyer pour se foutre de la gueule de Dreyer, alors que c'était son idole absolue, et que c'était ce qu'il avait inspiré pour faire Element of Crime. Et dès son deuxième film, il fait ça.
Alors, il tuait son père avec la lumière.
Oui, c'est ça, oui. Oui, tout à fait, oui, exactement. Il avait tué le père, mais il avait tué surtout lui-même, en fait, parce qu'il avait réussi à le faire dès le premier film, il avait réussi à avoir une image aussi impressionnante, etc., etc. Sauf que il voulait montrer qu'il y avait autre chose, et que c'était voilà, qu'elle était complètement mise en scène, complètement que c'était des techniques à l'ancienne avec les belles ampoules tout ça. Mais je pense que Lars von Trier, c'est pas un grand fan de folklore. Il aimait beaucoup, je pense, Dreyer pour la profondeur de Dreyer. Mais tout le folklore qu'on avait aimé dans Element of Crime, je pense qu'il a eu envie très vite de le parodier pour montrer autre chose. Et pour montrer d'autres voies esthétiques dès son deuxième film, et qui étaient des voies très très risquées. C'est un film qui n'a pas été aimé du tout. Je me souviens d'une projection à l'Escurial quand on cherchait encore des salles pour le film, puisque j'étais distributeur du film. Et donc le type de l'Escurial qui avait été fan de Element of Crime avait accepté qu'on le projette un matin, à la fois pour la presse et puis pour trouver d'autres. Et il était sorti en disant que c'était une punition, que c'était.
Donc tu vois le film et donc à la Cinémathèque. Et alors qu'est-ce qui se produit ?
Je mets du temps en fait. Je mets du temps même en direct à l'aimer, à le comprendre. Et je pense que ce temps-là participe. Ça arrive parfois en musique. Enfin, c'est presque un symptôme ou un signe en musique quand on met du temps. C'est rarement le flash de la première écoute.
Il y a toujours. À quel moment tu te dis il faut que je fasse quelque chose pour
quand j'ai compris. Non, mais au fur et à mesure du film. Bon, après, c'est plus intéressant si on a vu le film, mais au fur et à mesure du film, on comprend qu'on ne verra rien. Voilà. Qu'on nous parle de choses incroyables, mais qu'on ne les verra pas. Et venant de quelqu'un qui avait tellement montré dans son premier film, qui avait rendu les choses tellement visibles, là, on ne voyait plus rien. C'est-à-dire qu'on nous parlait d'une épidémie de peste, on nous parlait d'un film en train de se faire, etc., etc. On voyait des extraits de ce film, mais on voyait surtout, puisque l'idée était excellente, c'était des deux réalisateurs, Lars von Trier et son co-scénariste Niels Vorsel, qui devaient présenter leur nouveau projet de film à leur producteur. Et le jour où le producteur arrive, il n'y a plus rien sur la disquette. Et la disquette, ils ont beau. Hein. Donc, ils ont ce rendez-vous. Et du coup, ils vont inventer complètement un projet de film avec vaguement des souvenirs, mais très diffus, etc. Et ils partent ailleurs. Et le film... après, il y a une espèce de côté un peu film Z de science-fiction ou fantastique. C'est-à-dire que le film s'empare d'eux et crée une réalité parallèle. Voilà, il y a un côté très... il y a plein de pôles dans Epidémique. Mais le film finit par une incroyable scène d'hypnose réelle, qui s'est réellement déroulée. Et où ils ont demandé à un cobaye qui travaillait avec un hypnotiseur de rentrer dans ce film qui n'existait pas. Alors, et ça se finit très très mal d'ailleurs.
À quel moment t'interviens du coup ? Parce que alors, le film donc, n'est pas diffusé.
Je vois le film et puis à un moment je veux savoir quand est-ce qu'il va sortir. Je suis ado et fan. Je veux savoir juste quand est-ce qu'il sort. Et là j'apprends, je ne sais plus comment, je crois par l'attaché de presse de Lars von Trier à l'époque... Que personne n'en veut.
Et tu as quel âge là ?
J'ai 19 ans.
Et d'accord, donc à 19 ans, il faut que je fasse un truc pour que le film sorte. C'est quand
voilà,
même,
c'est ça. Bah, il faut, c'est fou, pas ça. Compliqué ce qu'il faut faire. Il faut faire des copies sous-titrées et faire des affiches. Il faut créer une société. C'était pas un truc. Je l'ai créé pour sortir ce film-là uniquement et pas du tout pour créer une société. C'est simplement parce que j'aimais ce film et je comprenais pas que. Voilà, qu'on puisse pas montrer ça, mais je me souviens, c'était assez drôle parce qu'il y avait ça. On reparlera peut-être de choses comme ça quand on a très très peu de moyens, tout ce qu'on arrive à obtenir avec quand on n'a rien. Et nous, on n'avait rien à l'époque pour sortir le film. Et c'était le moment où il y avait une loi qui venait de passer sur l'affichage sauvage. Et tout d'un coup, ça rigolait plus du tout à Paris. On pouvait plus du tout faire d'affichage sauvage. Et donc, moi, j'avais appelé à la mairie en disant voilà, on est distributeur, on a un film que personne connaît. Si on peut pas faire ça, comment on va faire tout ça ? Et ils nous avaient dit on peut vous donner les poubelles. Pendant une semaine, si vous voulez, dans Paris, vous avez toutes les poubelles. Alors, je me disais, pour Epidémique, mais c'est le rêve, quoi. Et ils nous ont donné toutes les poubelles, hein, les petites poubelles comme ça. Et on a pu mettre nos affichettes dedans, dans toutes les poubelles. Ouais, ça n'a pas été un carton pour autant. Hein, mais c'était idéal. C'était dire, comme si on avait justement eu de l'argent et si on avait décidé, on aurait pris les poubelles.
À 19 ans, tu étais où ? Tu faisais quoi ?
Pardon ?
À 19 ans, tu faisais où ? Enfin, tu étais où et tu faisais quoi ?
J'ai pas compris le début.
Tu étais où et tu faisais quoi ?
J'étais stagiaire de réalisateur un peu en pub, en clip, truc comme ça. Je venais d'arrêter. J'avais arrêté les études et je m'étais mis aussi à faire des films. Dès que j'ai arrêté les études, j'ai eu la chance de travailler par des voies qui ne seraient pas intéressantes à raconter, mais pour le ministère de l'économie sociale. À ce moment-là, qui faisait une expo au Grand Palais pour laquelle il fallait plein de films. Et voilà, donc j'ai essayé de réaliser ces trucs-là en Super 8, qui étaient des documentaires lourds, pourtant compliqués, etc. J'étais tout seul, mais voilà, je me lançais là-dedans. C'était l'euphorie des premiers.
Mais tu avais déjà une pratique du cinéma, alors ?
De spectateur et puis de, comment on dit, court-métragiste. Enfin, j'avais fait des courts-métrages, des trucs nuls, mais en Super 8 et qui te enfin, tu laves ton linge sale pour toi, devant tes potes et tout ça, et avec beaucoup de fantasmes sur le cinéma, etc.
Tu voulais devenir quoi à l'époque ?
Tu veux dire comme genre de cinéaste?
Ouais.
Je sais pas. Je sais pas, mais par contre, je sais que qui. Oui, j'aimais déjà Godard beaucoup, énormément. Mais des choses aussi. Mais je connaissais pas Bresson, je connaissais pas.
Et comment t'as connu Godard?
Te dire exactement, il y avait quand même. Moi, j'ai pas eu la télé pendant très très longtemps. Alors évidemment, quand elle est arrivée à la maison, alors que j'en partais quasiment de la maison, je regardais justement. Moi, j'ai commencé le cinéma. Ça a commencé pas du tout par les cahiers. Ça a commencé par Première. Donc moi, je lisais Première. Puis ensuite, c'était les émissions de Frédéric Mitterrand à la télé. Alors je me souviens d'un truc ou deux. C'est quand même Frédéric Mitterrand, découverte de Piala et de Godard, quand même. Enfin, une longue émission sur Piala. À la sortie de Nos Amours. Et moi, je découvrais, j'avais 15, je crois, 82, 83. J'avais 15 ans et découvrir des extraits de Nos Amours, enfin, comment ça jouait, les cadres, tout ça, c'était impressionnant.
Alors, on vient de parler de Godard, peut-être que c'est le moment qu'on écoute un extrait de Prénom Carmen.
Ah oui.
Prénom Carmen.
C'est presque. On écoute à la fois Prénom Carmen, un extrait, et on écoute une chanson de Tom Waits en même temps.
Bon, mais.
Mais c'est plus bas. C'est après, encore, on descend encore. Tu vois, Prénom Carmen, ça s'appelle Descend des Tiers. Voilà.
C'est parti.
Ah non, pas du tout. Il y a un décalage complet. Ça, là, on écoute le. On écoute le Gun Club, c'est bien aussi, hein, mais y a un décalage qui s'est fait. Sinon, on écoute le Gun Club.
En tout cas, ce n'est pas facile de te présenter. Moi, je venais ici, je suis arrivé ici avec l'impression que j'allais vivre un morceau de France, l'histoire de France.
Thank you. on se parle.
On a tout dit.
On n'a rien dit.
Demain, s'il te plaît.
C'est aujourd'hui.
Après-demain, alors. Après-demain.
Retour dans le studio de Galère avec Henri Jean Debon. Donc je vous laisse continuer la présentation. Voilà, David.
Peut-être juste pour ce qu'on vient d'entendre, du coup, c'est d'abord on a écouté Guns Club.
Le Guns Club, ouais. Like Calling Up Thunder, je crois, sur le deuxième album du Guns Club qui s'appelle Miami. Et ensuite on a écouté un extrait de Prénom Carmen dans lequel on entend Tom Waits. À la fin du film.
Et tu as amené cet extrait parce que c'est intéressant, parce qu'il y a la le son in qui, avec la musique qui vient dans le son in.
Oui, c'est pas la première raison. La première raison, c'est simplement que moi, c'est une madeleine, en fait. C'est-à-dire que c'est une découverte musicale qui était via le cinéma. J'ai découvert la musique, ce que j'aime en musique, grâce au cinéma. Et là, en l'occurrence, c'était Tom Waits, que j'ai écouté ensuite pendant des années, que j'écoute plus du tout, mais qui a été très marquant. Et c'était grâce à Prénom Carmen. Et ensuite, effectivement, il y avait ce qu'on... Alors, c'est compliqué, évidemment, sans l'image, mais c'est ça qui est intéressant. C'est on se demande pourquoi, tout d'un coup, là, ça coupe et puis ça repart un petit peu en arrière dans la musique, etc. etc. Mais parce qu'apparemment, ce qu'ils considéraient comme une chanson de film sur ce film-là, comme les Strobes l'ont fait après pendant des années, il la laissait sur le plateau. Et donc, c'est de la musique enregistrée en même temps comme il enregistrerait une discussion, etc. etc. Donc, après, selon son montage, ne répondait pas juste à on prend, on fait un montage image et ensuite on met la chanson. On fait un montage image. On a voulu que cette séquence-là soit bercée par cette chanson. Aïe que vaille. C'est-à-dire, on verra où on tombe dans la chanson.
Alors, on va continuer la présentation. On était en 88. Et là, on arrive en 89. Tu rencontres le groupe Noir Désir.
Oui.
Et du coup, il te propose de faire un clip où tu te dis...
Il me débauche, ouais. Il me débauche vers une forme que je connais à peine, qui est le clip. Alors que moi, je venais les voir pas du tout pour ça. Je venais les voir en leur proposant un semi-projet documentaire un peu... J'avais vu ce que Jack Hazan avait fait avec Les Clash, un film qui s'appelle Rude Boy, qui est un film très étonnant parce qu'on ne sait jamais ce qui est écrit et ce qui ne l'est pas dedans quand on le voit. Et je me disais qu'avec le charisme qu'avaient les Noirs Désirs, Bertrand évidemment, mais les autres aussi, bon, je ne les connaissais pas du tout, mais je me disais qu'il y avait, qu'on pourrait comme ça tourner et puis décider d'écrire ponctuellement... voilà, de mentir ou pas mentir selon l'humeur. Et on a commencé à tourner ce film-là en Russie alors qu'ils faisaient leur première date un peu hors de France. Ils faisaient quelques dates à Stalingrad, en Crimée aussi. Donc on a commencé à tourner un peu là-bas. On a tourné aussi sur quelques dates françaises. Et puis on n'a jamais trouvé l'argent nécessaire, ils n'étaient pas aussi connus
c'était
à l'époque.
C'était quel album, 89 c'était
C'est Veuillez rendre l'âme, c'est le premier album, en fait, puisqu'il y a eu un mini-album avant qui s'appelle, je ne sais plus comment.
Où veux-tu que je regarde ?
Où veux-tu que je regarde ? Ouais. Et c'est au moment du vrai premier album, avec le tube compliqué qui a failli les faire partir sur une autre voie, à savoir les sombreros de la mer, suivi par les écorchés, qui est beaucoup plus Noir Désir, etc. Enfin, c'était un moment un peu de charnière pour le groupe. Ça pouvait devenir deux choses différentes.
Mais tu vas les voir, tu leur dis j'ai envie de faire un film sur votre groupe. Pour qu'ils acceptent, c'est bien qu'il s'est passé une rencontre ou...
Oui, 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 il s'est passé une rencontre, mais ils m'ont aussi... Alors, quand je disais débauché, c'est-à-dire qu'au début, ça s'est passé sympathiquement. Ils m'ont dit dans quel cadre je pouvais rester, parce que moi, je demandais un petit peu tout en arrivant, c'est-à-dire de pouvoir tourner quand je voulais, etc. Bon.
T'avais 20 ans, eux aussi, ils avaient 20 ans ou ils étaient...
Non, ils avaient un peu plus. Moi, j'avais 21 ans, ils devaient avoir, eux, en moyenne, 24-25, choses comme ça. Et donc, il me laisse tourner certaines choses, pas tout, mais il me laisse tourner certaines choses pendant quelques concerts, etc. On apprend un petit peu à se connaître. Et puis vient la sortie de Veuillez rendre l'âme. Et à ce moment-là, ils ont besoin de spots télé. Et le premier truc qu'ils me demandent d'officiel et qui allait avoir une sortie officielle, c'était des spots télé, des pubs télé, ce qui est, on peut difficilement trouver un genre plus ingrat encore que le spot télé. Et je leur ai proposé de faire des pubs muettes, de faire des pubs musicales complètement muettes, sans une note de musique, avec juste des choses que j'avais filmées comme ça sur scène en Super 8. Et ça a été le premier travail qu'on a fait ensemble, c'est-à-dire qu'on a passé des pubs muettes aux heures de grande écoute et pour défendre un disque. Il n'y avait pas une note de musique, rien.
C'est très cohérent avec quelqu'un qui apprécie beaucoup les imperfections, le discours que tu tenais avant sur l'importance de l'erreur.
Je pense qu'aussi, c'est ce qui permettait un petit peu d'avoir envie d'écouter, parce qu'on voyait un groupe sur scène se mettre dans des étapes impossibles, on n'entendait pas, donc on se demandait bien ce qui se passait musicalement. Et puis, il y avait aussi le fait que ces espaces publicitaires étaient remplis tout le temps de sons, de voix off, de machin, etc. Et tout d'un coup, ça faisait un creuset. Et moi, je ne me disais pas du tout que c'était le truc arty et machin. Je me disais déjà, on va les voir. On arrivera à pouvoir les voir. C'était presque... Je peux dire que j'aurais pu être DA dans une maison de disques, mais il y avait un côté comme ça. Il y avait aussi un côté de pub. On va pouvoir la voir, de marketing, ouais. Exactement.
Et du coup, la télé, t'as laissé le droit de le faire, parce que
ça n'a pas été évident. Je sais qu'il y avait une histoire, parce que il y avait même une histoire de fréquence. On était obligé d'envoyer un son au début pour que ça annule pas un truc de commande ou je sais pas quoi, etc. Ce qui pouvait pas avoir un noir complet de son, en fait. Et il fallait donc mettre du souffle ou un truc comme ça pour. Je sais pas, c'était par rapport à certains lecteurs ou un truc comme ça.
C'était à l'époque où c'était en hertzien, en fait. S'il y a un noir, il y a un décrochage du signal.
Ah, voilà,
maintenant, avec le numérique, ça a plus lieu, mais avant.
On avait mis du souffle. Et d'ailleurs, il y avait deux versions de la pub. Il y en avait une qui était vraiment muette et il y en avait une où les sombreros de la mer commençaient. Alors, c'est la version consensuelle. C'était sur des 30 secondes. On commençait à entendre les sombreros de la mer et puis le saphir dérapait du disque. Comme ça s'est refait mille fois depuis. Et on avait 4-5 secondes de musique et tout le reste continuait juste avec de l'image. Mais après, moi, je trouve qu'on a fait mieux. C'est sur le premier clip qu'on a fait ensuite, qui était En route pour la joie. On a continué à faire la même chose, mais avec de la musique. C'est-à-dire qu'on a fait un clip muet. Et ça, c'était vraiment le premier truc dont on était... C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on peut appeler un clip muet ? Évidemment, il y avait la musique, il y avait les images, mais tout était désynchrone. Tout le temps. Et ce qui permettait soit d'écouter le morceau, enfin, pour l'esprit, d'écouter le morceau ou de voir. Mais il n'y avait pas du tout ce mensonge qu'il y a dans tous les clips un peu live, où on essaye de synchroniser la batterie, de synchroniser la voix. Là, tout était tombé à plat, c'est-à-dire qu'il donnait un coup, on entendait vaguement une guitare. Il n'y avait rien de synchro. Et ça durait comme ça pendant 3 minutes. On le voyait chanter sur un moment complètement instrumental. Quand il chantait, on le voyait réfléchir, etc. Il y avait, et c'était vraiment, ça donnait une impression vraiment de clip muet. En route pour la joie, je crois que c'était...
C'était ton premier clip avec eux ?
Voilà, c'est le premier clip avec eux. Et c'était vraiment la suite de cette pub-là. Et à partir de là, je pense qu'il y a eu toujours cette envie de continuer à ne pas trop mentir sur le son, ce qui est un truc très compliqué en clip. La base du clip, c'est un énorme mensonge, puisque... on fait des images qui sont enregistrées à un moment, qui sont censées illustrer une musique, qui a été faite à un autre, etc. Il y a presque une impossibilité de réel. On fait tout pour que le réel ne puisse pas rentrer là-dedans.
Pas mentir sur le son, ça veut dire respecter la plasticité du son, sa matière propre.
Qu'il ait une part de réel, qu'il ait une brèche de réel. Là, il ne peut pas y en avoir, puisque...
Quand tu dis c'est quoi, une part de réel du son, ça veut dire quoi ?
Alors, soit un élément de son direct, soit un rapport justement qui fasse qu'on avoue que ça n'a pas été fait au même moment et donc on passe à un autre stade de pensée sur le rapport image-son. On n'en est plus à essayer de synchroniser. Enfin, ce qu'on fait toujours, c'est le principe du playback. Principe du playback, voilà, c'est le principe du Scopitone, sauf que c'était acceptable dans Scopitone parce que tout le monde savait, parce que machin. Maintenant, on essaye d'en faire un truc avec un peu de fiction, enfin, de faire croire que du réel est venu là-dedans, même du réel écrit, mais quelque chose est venu là-dedans. Et on oublie, voilà, qu'au départ, on a un son vivant qui, en général, correspond à un moment, même si c'est de moins en moins vrai avec le numérique, mais c'est quand même, on enregistre du temps, quand même. Quand on enregistre de la musique, on enregistre du temps. Avant, c'était que des prises live. Ce qu'on enregistrait avant tout, c'était 3 minutes. C'était du temps. Que ce soit les Stones, les Beatles, jusque dans les années 80, on enregistrait du temps. Première chose qu'on a perdue avec numérique, c'est qu'on a arrêté d'enregistrer du temps. Et donc, voilà, on a perdu ce réel-là aussi. On n'a plus du tout enregistré de temps. On a enregistré des instruments qu'on a mis les uns sur les autres. Il y avait de la musique électronique dans les années 70 qui avait beaucoup plus de réel que de la musique organique qui s'est faite par la suite et qui était instrument par instrument.
Pour cette histoire d'enregistrer du temps, il y a le film de Jean-Luc Godard avec les Rolling Stones, non ?
Oui, oui, un petit peu. Il le fait, puisque de toute façon, voilà, c'était l'époque des prises live avec les paravents. Après, je ne crois pas que ce soit le thème tellement de One Plus One, mais c'est présent dans One Plus One parce qu'on voit... là, pour le coup, c'est le temps, ce n'est pas le temps réel, c'est-à-dire le temps du moment de l'enregistrement, c'est le temps qu'il faut pour enregistrer une chanson. Et pour la composer, puisqu'il la compose un petit peu en studio dans le film. Non, le fait d'enregistrer du temps, il y a quelques producteurs en musique, il y a un producteur qui s'appelle Steve Albini, qui continue à travailler comme ça, c'est-à-dire, quelle que soit la chanson, à partir du moment où on fait une prise live, et lui ne fait que des prises live, enfin, il n'y a pas d'ordinateur dans son studio, sauf pour recevoir les mails, comme il dit, il n'y en a pas du tout lié à la musique, on enregistre le temps de cette chanson-là. Ça veut dire... Comme c'est quoi, ça reste considéré en classique, l'humeur de ceux qui jouent à ce moment-là, le moindre bruit, l'acoustique de la pièce, la réverbération d'une batterie, etc. On enregistre un moment. Donc il y a une sonorité, même si on joue la chanson la plus pop du monde. Et quand on perd tout rapport avec ça, c'est compliqué d'en trouver d'autres. On peut en trouver d'autres.
Tu trouves qu'aujourd'hui, avec le numérique, on a perdu le rapport avec ça ?
Obligatoirement. Il n'y a pas de religiosité obligatoirement non plus à avoir ça.
On pourrait enregistrer en numérique du live. Du coup,
bien sûr, mais le problème, c'est toujours pareil, c'est l'offre. À partir du moment où on t'offre la possibilité de ne pas te planter quand tu joues, où on t'offre la possibilité de refaire 17 fois, où on t'offre la possibilité de ne pas avoir la pression des autres musiciens pendant que tu enregistres ta prise, eh ben, si l'offre elle est là, tu la prends. J'ai eu un groupe, je l'ai fait. Hein. Non, ça on le. On saute dessus.
Sur l'image donc de ce clip, tu continues et tu persévères avec ta petite caméra Super 8, c'est ça ?
Non ? Oui, c'était en Super 8 aussi, ouais. Ah. Ouais, c'était en Super 8.
Alors, c'est quelque chose qui t'a pas lâché pendant longtemps d'ailleurs. Enfin, quand on voit un petit peu l'histoire de ton travail sur l'ensemble des clips que tu fais, on retrouve beaucoup le Super 8 et le 16 mm. Et donc à ce moment-là, quand tu fais ce clip, pour toi, c'est une évidence de travailler avec cet outil-là ?
C'était effectivement, il y avait des raisons économiques. Et puis, il y avait les raisons. On a un matériel qu'on connaît bien, on sait le gérer, etc. Mais moi, très vite, les clips que j'ai faits, je les ai produits, en fait. Parce qu'on m'en a donné l'idée ou la possibilité. Ça voulait dire quoi, produire ? Ça voulait dire que la maison de disques te donnait une enveloppe et tu te débrouillais avec ce qu'il y avait dans l'enveloppe. Et moi, j'ai très vite aimé ça, produire. C'est-à-dire, je trouvais que c'était au moins aussi politique que de réaliser, si ce n'est plus. C'est-à-dire de choisir comment on répartissait l'argent déjà dans l'écriture. Et donc, l'idée du Super 8, c'était ça. C'était pourquoi, au bout d'un moment, s'embêter. J'ai tourné quoi en Super 16 ou machin. Je vais avoir besoin de plus de techniciens. Est-ce qu'on va bien se comprendre ? Est-ce que, etc. Super 8, l'idée permettait de tourner en Super 8, autant tourner en Super 8. J'avais besoin de personne. On économisait de l'argent.
En tous les cas, il n'y avait pas encore les moyens vidéo disponibles à l'époque pour le faire. Si, tu n'avais pas cette alternative là encore.
Si, ils existaient déjà. Fin 80, ils existaient clairement. Mais par contre, ils n'étaient pas acceptés dans ces espaces-là à télévision. Un clip vidéo, c'était notamment France 3 Lorraine. Enfin, on considérait que c'était du plateau, mais pas que ça pouvait être passé comme clip. Le clip, il fallait qu'il y ait le folklore. C'est un folklore idiot, hein, mais il fallait qu'il y ait le folklore. Et maintenant, aujourd'hui, alors que tout est totalement en vidéo, on continue à courir vers le folklore de l'image 35. C'est-à-dire que c'est la vidéo qui aura le plus l'image 35. Mais par contre, on ne tourne plus du tout en 35. Mais il y a toujours eu ce truc-là. On a toujours dit... Ça, c'est un truc dramatique, d'ailleurs. C'est que moi, j'ai vécu à l'époque, je tournais en Super 8, mais j'adorais la vidéo. J'aimais beaucoup la vidéo. Je comprenais bien que ça marchait difficilement avec le format du clip. Et surtout, le problème, c'était la connotation, justement, que tous les gens en avaient. Mais c'était l'époque où Godard faisait ses premières tentatives vidéo. Et tout d'un coup, la vidéo, c'était sûrement, à cette époque-là, l'outil le plus punk qu'on pouvait avoir. C'est-à-dire, c'était une incursion du réel extrêmement violente, très, très, très brutale, et tellement que personne ne voulait y toucher. Et maintenant, quand on y touche, c'est pour essayer de la ramener vers l'image film, c'est-à-dire vers plus de folklore, toujours.
Et par rapport au rapport son-image, qui est la thématique de cette émission...
On aura essayé, en tout cas.
Qu'est-ce que tu penses de cette phrase de Bresson qui est issue des notes sur le cinématographe ? Quand on donne beaucoup à l'œil, il faut moins donner à l'oreille et inversement.
Il faut moins donner à l'oreille ?
Voilà. Quand on donne beaucoup à l'œil, qu'il y a un dosage en fait.
Non mais bien sûr, parce qu'on n'est pas très très fort là-dessus.
Et quand on donne beaucoup...
Bien sûr, ouais. Ah bah, lui, il l'a surtout merveilleusement mis en pratique, mais c'est vrai que c'est toujours... C'est la question qu'on se posait en clip, c'est-à-dire c'était la même question, en fait, que...
C'est ce que tu disais tout à l'heure avec la désynchro, enfin, ça revient un petit peu à ça, en fait.
Mais c'est aussi la même question, en fait, que Patrick Lelay posait sur la disponibilité d'esprit... Cerveau disponible. C'est pareil, c'est la même chose que ce dont parle Bresson. Donc on est limité aussi culturellement avec ça, c'est-à-dire que c'était son gros cheval de bataille. C'est pourquoi il n'y avait pas eu de cinématographe ? Parce que tout de suite, il y avait eu du cinéma et que tout de suite, on avait dit oui, d'accord, ok, il y a l'image et du son, mais on va faire comme au théâtre, ça va parler en même temps, et puis ça joue. Lui, il avait dit non, attendez, vous avez deux outils, vous vous rendez compte, et deux outils qui en font qu'un, mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler les deux en même temps. Donc, il savait très bien qu'on pouvait raconter avec le bruit d'un trousseau de clés, avec évidemment des bruits de pas, avec le son d'un jeu, avec le son d'une voix, et qu'il y avait beaucoup à raconter là-dedans, et qu'on l'avait laissé tomber dès le départ, dès l'arrivée du parlant. On ne s'est pas intéressé à ça, on s'est juste dit on va pouvoir plus raconter ou plus vite, mais on ne s'est pas dit qu'on pouvait raconter avec l'outil. Lui, il voulait raconter avec l'outil, c'était aussi simple que ça, c'est avec l'image, mais avec le son, il voulait raconter avec les deux.
Et là, du coup, ton premier clip qui joue sur un désynchronisme, est-ce que tu peux nous parler, plus tard, parce que tu as travaillé pendant 12 ans avec Noir Désir, d'un clip où tu as travaillé sur un synchronisme marquant ?
Bon, on a essayé d'avoir un rapport à chaque fois avec ça, même quand c'est... Tu peux... Bon, il faut savoir que n'importe quel travail sur le son, qui plus est évidemment en clip, induit une distance. C'est-à-dire que ça va amener une distance. Si on n'est pas justement dans le mensonge direct, c'est-à-dire il y a un playback et puis basta, on passe à autre chose. Maintenant qu'on sait qu'il y a un playback, on va pouvoir soit illustrer, etc. Si on refuse ça, on va créer une distance parce que tout d'un coup, on va se dire mais il y a un truc pas normal. Alors après, il faut compenser cette distance par autre chose qui peut vous faire quand même rentrer dedans. Donc nous, on a été quand même jusqu'à faire un playback. Mine de rien, c'est pas comme quoi il n'y avait pas non plus tant de religiosité que ça. Sur Tostaki, on a fait un playback, mais l'idée c'était de faire un plan séquence déjà sur ce playback-là, sur le visage, et que justement, tout d'un coup, parce que ça s'y prêtait, parce que Tostaki est un morceau qui est très particulier, qui a une voix très blanche, on n'avait jamais entendu ça dans le rock français, une voix très neutre, quasiment parlée, sur un boucan de guitare incroyable, et que c'était bien d'avoir cet apaisement-là, de pouvoir l'illustrer. Donc il y avait ce trois quarts face, qui est un axe. J'ai essayé beaucoup de travailler, dans lequel je trouve qu'il se passe beaucoup de choses. Et il y avait trois quarts d'eau, autant pour moi. Il y avait un trois quarts d'eau de Bertrand, comme ça, qui, sur toute la chanson, il y avait un enregistrement quand même, pour le coup, de temps réel, faisait son playback, mais essayait justement d'être dans un état proche de celui de la...
Parce qu'on se rappelle de Postillon, non ?
Alors, il y a un postillon, ouais. Il y a un postillon sur une tombe.
Mais sur pour revenir à Tostaki, sur tu dis trois quarts face, effectivement, trois quarts face, trois quarts d'eau qui en tous les cas mange des trois quarts effectivement d'image. Oui. Et donc du coup, effectivement, on est à la recherche de ce qui reste d'image, et c'est ce qui est super dans ce clip.
Mais c'était l'autre idée, en fait, ça venait d'une photo qui est très très connue, qui est une photo d'un, je sais plus, c'est au Brésil. D'un type qui va se faire fusiller, je ne sais pas si tu la connais, et on n'a pas le contre-champ, on ne voit que ce type-là avec son chapeau, il est super fier, et en fait il va se faire buter dans quelques secondes, et donc le hors-champ manque complètement, et il n'y a que ce type-là dont tu as l'impression qu'il pose avant les vendanges. Voilà. Et je me disais, voilà, on peut en faire pas mal comme ça. C'est honnêtement pas très réussi, moi, je trouve, ça, dans Tostaki. Ça marche bien sur le visage de Bertrand, mais cette interaction-là entre justement la frustration des trois quarts manquants de l'image, je trouve, c'est pas une grande réussite.
Mais ça, c'est de la vidéo, du coup, non ?
Ah non. Tout était en film. Le plan de Bertrand était tourné en Super 16 et toutes les autres images que j'avais tournées au Mexique ou aux États-Unis étaient en Super 8.
Ah, c'est toi qui les avais tournées, les images, donc.
Ouais, à 90%, puisqu'il y avait quand même quelques plans d'archives. Il y a une partie de foot des années 30. Et puis, des jeunesses vietnamiennes à la fin, là, qui font un exercice. Voilà,
il y a de
gymnastique. Voilà, il y a 5-6 plans qui sont de l'archive, mais tout le reste est tourné. Ça, j'ai fait beaucoup de clips où on croit qu'il y a de l'archive alors que c'est tourné, en fait.
Oui, je l'avais pensé aussi.
Ouais, non, mais c'est tourné. Ouais. On s'amuse. Enfin, moi, c'était un plaisir, ça, au contraire.
Mais pas les hippocampes.
Alors non, les hippocampes, tout à fait, c'est pas un levé, c'est des images même assez connues, en fait. C'est les accouchements d'hippocampes filmés par...
Là, on parle d'un clip de Louis Attaque.
Ouais, c'est pour un clip de Louis Attaque. Moi, j'avais vu... En fait, c'était une fiancée qui m'avait fait découvrir ces images-là, qui étaient incroyables, d'accouchement d'hippocampes. Et bah, là, toute la première partie de la chanson, l'idée de depuis toujours, qui était la chanson de Louis Attaque, c'était de montrer justement des choses, même des choses très contemporaines, mais des choses qui potentiellement existaient depuis toujours. Voilà. Donc ça allait d'une pute à des accouchements d'hippocampe.
Et là, peut-être qu'on peut enchaîner sur un extrait de Marie Barbe, si jamais Fab y arrive.
Ouais.
Marie Barbe, qui est un extrait d'un film que tu as réalisé.
MB12 Watillet, voilà.
Guten Abend, Marie Barbe Oriot, hier spricht die Polizei.
Et donc, Henri Jean, tu as réalisé des clips pour les autres et tu as aussi réalisé des films pour toi.
Mm-hmm.
Et là, c'est un film qui date de 2008.
À peu près, je suis très mauvais avec les dates. Mais...
Marie Barbe. Ouais. Et qui tente quelque chose que tu appelles la métasynchro.
Mm.
Alors, peut-être que tu peux nous en parler.
Comment faire quoi ? La métasynchro, c'était une théorie de son pour pouvoir créer de la fiction pas chère. Alors, comment ça, de la fiction pas chère ? C'est-à-dire qu'elle n'était que au son. Toute la partie vraiment fiction n'existait que au son. C'était très écrit, on pouvait avoir des scènes éventuellement spectaculaires, d'accidents, mais c'était juste enregistré. Et les images avaient... Il y a des images elles ont un rapport, elles ont un lien souvent ténu avec ce qu'on entend, mais c'est pas du tout ni enregistré. Il n'y a pas le fameux mensonge dont on parle, c'est d'autres images. Voilà. C'est d'autres images qui ont un lien avec cette fiction-là. Mais là, pendant ce qu'on a entendu, on voyait des plans dans un hôtel en Autriche, extrêmement calme et un peu baroque, avec un grand lit, un truc un peu Argento, mais en Super 8, avec un vieux téléphone, une table de chevet, un miroir, un lit, et puis après un parc la nuit avec des enfants dedans. Voilà. Sur ces cris-là, voilà. Mais par contre, ces cris-là interviennent à un moment dans une fiction, sur les cris d'un deuil. Je voudrais embrasser la personne qui les a commis,
qui écoute, je crois. Voilà. Antonella, je sais que tu es en train de travailler sur un de tes films où tu te poses beaucoup de questions de son. Est-ce que tu as une question à poser à Henri Jean autour du son et du rapport son-image ?
Déjà, je l'écoute attentivement. Et aussi, peut-être, il me donne des suggestions. La question du synchrone. Le non-synchrone m'a toujours intéressé. Ouais, je l'écoute. Mais pas, non. Pas
écoute, David, si elle a une question à lui poser, c'est grande pour lui poser.
Je faire circuler la parole.
L'enfant devant la cheminée, je veux les histoires.
Et Henri-Jean, je sais que j'ai lu un peu ta liste des 10 films préférés des 10 dernières années. Et on a un peu des goûts en commun. Enfin, j'ai vu le nom de Straub, Rousseau,
ouais.
Godard.
Ouais.
Et Straub, par exemple, par rapport au son, tout est en son direct. Mm. Et par hasard, quelquefois, il appelle ça des étincelles. Le son et l'image se rencontrent.
Oui. Le frottement. C'est pareil. Hein, oui, il y a des frottements. Mais lui, c'est tellement énorme ce qu'il a fait là-dessus. Enfin, ça vient de Bresson, hein, tout ça. Tu as commencé avec Bresson, tout ce travail-là immense a commencé avec Bresson. Même ce dont on a parlé avec Godard, je pense que honnêtement, c'est incomparable avec le travail. Il y a une filiation Bresson-Straub qui pourra difficilement aller plus loin dans le rapport de croyance par rapport à la synchronisation et par rapport aux étincelles, par rapport aux atomes crochus, image-son. Lui, en plus, j'avais lu quelque part sur Straub, et je pense que ça n'a pas été suffisamment dit, que c'était le dernier grand cinéaste hollywoodien. Et c'est vrai, c'est-à-dire que c'est le seul qui peut faire jouer tout un orchestre en direct pour un plan, sans qu'on le voit. Et il fait venir l'orchestre, et l'orchestre joue pour la scène. Et je crois qu'il y a ça dans Moïse et Aaron, entre autres. Et il joue pour... voilà, c'est enregistré, mais on ne le voit pas. Et après, la liste est longue de tout ce qu'il a... Enfin, il y a les fameuses chroniques d'Anna Magdalena Labarre. Enfin, ça va très, très loin sur le son. En tout cas, il y a l'idée du vertige du son. Parce qu'on parle de synchro, des synchros, on a l'air d'en parler de manière très technique. Mais faut savoir, voilà, la question, c'est le pouvoir du son. C'est-à-dire à quel point il peut créer un vertige. À quel point ce frottement-là peut créer soit un vertige, une étincelle ou... Quand on parlait de la distance, je pense que ça, c'était aussi un truc cher à Straub via Brecht. C'était qui est une distance. La distance, c'est qu'un point de départ. C'est qu'il faut commencer par créer une distance pour qu'on soit plus attentif. C'est-à-dire ne pas tomber dans le mensonge de juste, bon, ben voilà, il y a du son, de l'image, machin. Mais ensuite, après, il faut re-rentrer dedans. Il ne s'agit pas que d'avoir créé la distance. Il faut re-rentrer une fois qu'on a créé cette distance-là. Et ça, c'est un vrai travail. Voilà.
Tu te souviens d'une étincelle pour donner envie aux auditeurs d'aller regarder un film des Straub ?
Je ne me souviens pas d'un quart d'heure de Straub sans étincelle. Je pense que c'est pareil pour pour Bresson, Bresson, il avait dit un truc, je trouve, qui est une des choses qui résume le mieux le cinématographe, c'est ça ne peut pas marcher tout le temps. C'est-à-dire que quand on commence à dire ça ne peut pas marcher tout le temps, ça veut bien dire que par moments, ça marche. Évidemment, il y a un trajet, il y a des moments où, dans un film de Bresson, on va ne voir que le fameux côté, ce qu'il appelait la planche à repasser, le fer à repasser. C'est-à-dire qu'il disait qu'il mettait le fer à repasser sur toutes ces images, qu'il fallait passer par d'abord que ce soit le plus plat possible, mettre tout à plat, écraser tout, écraser le jeu, écraser... Bah, y a des moments où on va voir que ça. Mais la plupart du temps, c'est un terre-plein pour que naissent enfin, pour que puissent renaître des émotions qui ont été complètement tuées par des constructions alambiquées de l'esprit par rapport au cinéma, mais qui perdaient tout le côté organique. On n'avait plus aucun rapport à l'organique. Chez Bresson, il y a un rapport permanent à l'organique. Alors, il faut. Le problème, c'est que c'est un problème éducatif ensuite. Il faut réapprendre à regarder ces images-là et à écouter ce que tu citais tout à l'heure sur ce qu'on risquait de perdre, soit à l'oreille, soit à l'œil. On peut pas.
Mais tout était post-synchronisé, non, Bresson?
Pas tout, non, parce que je crois qu'il y a quand même, non, il y a beaucoup de sons directs, mais par contre, il n'y avait pas de dogme. Il n'y avait pas un moment, je crois qu'il y a eu Godard qui avait un espèce de dogme comme ça sur le son direct. Straub en a beaucoup aussi, parce que il veut pas entendre ce mot-là, mais c'est le cinéaste de la croyance, c'est que lui, il est persuadé de toute façon qu'à partir du moment où c'est fait ensemble, il y a un truc qui est pas comparable avec quand c'est pas fait ensemble.
Pour Godard, il y a un exemple célèbre, c'est quand il y a un avion qui passe. C'est le début de quelqu'un. On le voit pas, oui, on voit pas l'avion. C'est sur les deux acteurs et on entend un avion qui passe, mais qu'on voit pas à l'image. Et l'ingénieur du son dit non, mais là, faut refaire la prise parce que l'avion passe, c'est n'importe quoi.
Oui.
Et Godard dit non, mais justement.
Ouais.
Il y avait Buñuel qui faisait passer. C'était quoi la? La bourgeoisie,
le charme discret de la bourgeoisie.
Le charme discret de la bourgeoisie où il y avait des. À chaque fois que quelqu'un parlait, il y avait un avion qui passait et il y avait Bon, ça avait un côté comique, mais. C'était très fort.
Mais ce dont peut-être on ne parle pas assez, c'est qu'il y a des degrés là-dedans. C'est-à-dire que c'est pas. On a parlé de Bresson, de Godard et Straub, je pense que c'est effectivement un pôle de son qui est incroyable, mais on pourrait parler de certains films de Ford où il y a du son de manière beaucoup moins démonstrative. Dans The Sun Shines Bright, il y a un enterrement. C'est un petit film hollywoodien, mais c'est un film hollywoodien et on n'est pas habitué, tout d'un coup, dans un film hollywoodien, on n'entend plus que les sabots des chevaux pendant, je ne sais pas, peut-être 5 ou 6 minutes. C'est extrêmement long. Et peut-être qu'il a aéré ça d'un mot par-ci, un mot par-là. Mais là, c'était un mysticisme très, très irlandais. Mais tout d'un coup, c'était l'enterrement d'une pute. Sûrement peut-être son plus beau film. Et voilà, la fiction est là, tout autour. On n'est pas du tout dans un film expérimental. On n'est pas dans un film ni de cinématographe, ni rien. On est dans un petit film de vacances hollywoodien. Et le rapport au son, à ce moment-là, est beaucoup plus discret qu'il ne l'est chez Godard ou chez Bresson ou chez les Straub. Mais il est très, très fort. Le problème, c'est que cette éducation-là, pour avoir cette attention-là pour Ford, on l'a perdue, de toute façon. Donc, du coup, il faut bien en repasser par plus de pédagogie, c'est-à-dire il faut repasser par Bresson, il faut nettoyer les oreilles, etc.
À quel endroit tu te sens, dans ton travail, cette influence, en tous les cas cette admiration et cette compréhension de ce cinéma-là, à quel endroit tu sens que tu te l'appropries, j'allais dire, est-ce que tu fais ton cinéma et j'allais dire ta musique et ton son, je veux dire, de manière tout à fait personnel bien sûr, mais est-ce que tu sens qu'il y a un endroit où qui t'a touché et du coup qui a créé une empreinte dans la manière dont tu travailles?
Je crois pas que tu te l'appropries, mais c'est d'où tu viens de toute façon. Après, moi il y avait un truc qui était drôle avec ce que je faisais, c'était la schizophrénie totale, c'est-à-dire j'avais pas intérêt à parler des Straub dans les maisons de disques. Enfin, je faisais des clips pour Noir Désir, ou pour Louise Attaque, ou pour Luc.
C'est quand même le milieu du rock, non ?
Oui, c'est le milieu du rock. Il n'y a pas de milieu plus anti-cinéma que le milieu du rock. Hein. Enfin, ça, ce serait le sujet d'une émission. Mmh. Je la fais quand tu veux, parce que c'est assez affligeant. Enfin, la culture cinéma des groupes de rock, elle est consternante. Vraiment, c'est un drame, ça. Et donc, même si c'était le milieu du rock, c'était surtout le milieu de Maison 10, c'était le major. C'est même pas... Heureusement, bon, ils ne les connaissaient pas, ces gens dont on parle. Je ne dis pas tellement de manière méprisante ou condescendante. C'était juste que ce n'était pas du tout leur cheval de bataille. Ils avaient d'autres critères. Et du coup, moi, je suis arrivé avec ces trucs, avec cette culture-là. Il y avait une schizophrénie. Il y avait une vraie schizophrénie qui ait des traces de cet héritage-là dans ces espaces-là. Là, tu passes Tostaki, machin. Voilà, qu'il y ait des traces de ça, je pense que c'était nouveau par rapport à l'espace. C'était les fans de Straub, de Bresson, dans les jeunes cinéastes. Je pense qu'ils sont très, très nombreux. Mais ils se retrouvent rarement à faire des clips pour Universal. Alors ils le font pour les sous. Moi, je le faisais pas du tout. Enfin, j'en ai très bien vécu, mais je le faisais pas pour des raisons alimentaires. Ça a été un truc important pour moi aussi. Cette chose-là, c'était que le clip n'était pas en attendant de faire autre chose. C'était justement. Tu parles de comment c'est approprié, c'est-à-dire c'était pas des espaces alimentaires, c'était pas des espaces secondaires, c'était des espaces, et je le pense toujours, dans lesquels il y avait tout à faire.
Et pourquoi tu parles de ça au passé ?
Parce que je le fais plus pour les maisons de disques tellement c'est fini.
Et pourquoi ? Parce que l'écart devient trop grand ?
Ah oui, le fossé, c'est... Moi j'ai pu le constater en refaisant il y a un an et demi, deux ans. On m'avait dit, tu vas voir, pendant 3-4 ans, je ne l'avais pas fait. On m'avait dit, ça s'est beaucoup aggravé, ce qui était difficile à imaginer vu d'où on venait. Eh bien non, ça s'était bien aggravé, encore plus que ce qu'on pouvait imaginer. Et maintenant, non, ce n'est pas possible. Mais ce n'est pas possible, c'est une question de pouvoir. C'est toujours pareil, c'est-à-dire que ce n'est pas vrai que ce n'est pas possible. Mais ça dépend de quel... je pense que les Daft Punk peuvent faire ce qu'ils veulent en images. Plein de gens, enfin, et les Daft Punk d'un côté, mais Céline Dion aussi. C'est une question de pouvoir, c'est juste ça. Avant, c'était moins une question de pouvoir, il y avait une question de proposition quand même. Même si j'étais très très bien loti en travaillant pour Noir Désir.
Mais eux, ils ont voulu continuer à travailler avec toi parce que justement, tu avais un regard d'auteur de cinéma.
Oui, mais ils ont fait des trucs avec d'autres qui prouvaient qu'il n'y avait aucune valeur particulière profonde à ce choix, en fait. Elle était ponctuelle et il n'y avait pas de règles. C'est ça le problème. Enfin, rétrospectivement, moi, le gros échec que je vois de ça, c'est qu'il n'y a pas de... C'est que, voilà, y a, là, pour le coup, il y a un manque de dogme ou de règles. Ouais, ça pouvait être ça, comme ça aurait pu être autre chose, en fait. Je pense que ce n'est pas vrai dans l'histoire.
Vous ne parliez pas des clips de ton travail avec eux, par exemple. C'est pas quelque chose...
Si, on en parlait, si.
Enfin, je veux dire, qu'est-ce que, au niveau du cinéma, enfin, justement, de ce qui se...
Bah là, je l'évoquais un peu tout à l'heure sur la culture des groupes de rock. Ouais, hein.
Non, mais eux-mêmes, pareil. Enfin, je veux dire, c'était la même chose.
Oui, je pense. Et ça ne peut pas se résumer comme ça, mais c'est vrai que le... Vraiment, ça c'est un très très long débat de savoir pourquoi. J'ai failli en parler tout à l'heure parce que moi c'était intéressant quand, ne venant que du cinéma et que d'une culture cinéma, quand je pensais à Tom Waits dans Prénom Carmen, comment on construit une culture musicale quand on a tellement de choses en images qui sont précises, qui sont... Il y a des règles quand même, il y a des refus. Comment on va adapter ça à la musique ? Et ça va évidemment dans les deux sens. Donc, je veux dire, ces groupes de rock qui sont parfois très très radicaux dans leur pensée, etc., et dans leur musique, enfin, qui soit se croient ou se veulent ou le sont très radicaux, qu'est-ce qu'ils font de ce radicalisme-là ou de cette envie de radicalisme-là quand ils voient de l'image ? Et quand ils sont confrontés à l'image. Et là, tout d'un coup, les yeux en tombent. C'est-à-dire que tout le monde, en fait, ils aiment tous bien David Lynch, ils aiment bien Scorsese. Ils se retrouvent tous là-dessus. On a l'impression d'un coup de voir une espèce de billboard. C'est toujours les 4-5 mêmes qui reviennent. C'est incroyable. Et Godard, non. Le cinéma français, globalement, non. Vilipendé à mort. Ou ce qui va rester, c'est Audiard. Enfin, c'est... voilà. Du coup, on ne sait même plus si on va écouter après. Quoi.
Et en t'écoutant, du coup, on a l'impression que tu es devenu un intello du cinéma par rapport au milieu de la musique.
Ah, mais il y avait cette schizophrénie-là complète, ouais, bien sûr. C'était, mais oui, c'était c'était le lunetteux dans la cour de récré, ouais. Il prenait pas les baffes, mais il y avait ce côté-là, ouais. C'est-à-dire, et avec toute la caricature qui va avec ça, c'est-à-dire de croire que c'était celui qui allait. J'avais entendu ça même encore en travaillant en musique. Il était moins avec les filles que justement avec ses films ou dans ses bouquins ou machin, etc. Il y avait ce truc-là. Et c'était pas tellement avec les groupes, je l'ai pas tellement senti ce truc-là. Mais dans les maisons de disques, je l'ai beaucoup senti, oui. Que c'était le petit intello. C'est ça aussi avec le Noir Désir, c'est qu'ils étaient bien obligés de me supporter parce que le groupe m'imposait quand même beaucoup. Et à un moment, le truc s'est inversé, c'est-à-dire que les maisons de disques ont reconnu vraiment, et ça, il y a eu vraiment un moment différent, un peu charnière, où les maisons de disques, parfois à demi-mot et parfois même pas à demi-mot, ont reconnu que s'il n'y avait pas eu ça comme image, le groupe aurait pris une autre direction et que cette image-là les avait énormément servis.
Et c'est pour ça que d'autres artistes ont fait appel à toi, enfin Dominica.
Il y a eu ça, mais il y a eu aussi honnêtement pas mal une direction aussi, je pense, prise par d'autres. Je me rappelle de Louise Attaque, bien avant qu'on travaille ensemble, où il y avait des trucs un peu de plagiat, des trucs qu'on avait fait avec Nordaise ou même d'autres groupes. Il y a honnêtement des groupes ricains qui nous ont, qui ont un peu parodié en image, enfin pas parodié, mais qui ont repris un peu des trucs qu'on n'avait pas vus avant. Je pense à Rage Against the Machine. Aux Smashing Pumpkins, c'est des groupes comme ça, quoi. On voit clairement que ça vient de certains clips qu'ils ont vus et dont ils ont repris la technique. Ça peut être des hasards, mais j'ai du mal à croire quand même.
Et du coup, pour continuer à être dans la pratique du rapport son-image et continuer à faire des clips, tu as monté LCD. Peut-être tu peux nous en parler.
Ouais, Low Cost Division. Ouais, non, il y avait l'idée, voilà. Quelqu'un me demandait récemment si c'était un choix de survie. Oui, c'était un choix de survie, c'est-à-dire pouvoir continuer à... Moi, j'aimais ça, le clip. Encore une fois, comme on disait tout à l'heure, c'était pas en attendant de faire autre chose. Je trouvais que c'était vraiment un espace dans lequel il y avait énormément à faire. Donc, si je voulais continuer à le faire, il fallait garder un peu de liberté. Et avec les maisons de disques, ça devenait impossible et ça devenait vraiment trop dépressif. Donc j'ai proposé, enfin c'est pas vrai, c'est un groupe américain dont j'étais très fan qui m'a donné l'idée, c'était Danielson Family, enregistré par Steve Albini dont on parlait tout à l'heure.
On peut le mettre en fond là pendant qu'on parle.
Oui, tout à fait, Danielson Family, la chanson s'appelle Good News for the Post Pickers, c'était tout prêt en fait, ouais c'est ça, voilà. Bon, faudrait l'écouter. Pas en fond en fait, mais parfois j'ai arrêté de parler, mais c'est voilà, ce groupe-là fêtait leurs 10 ans d'existence et on demandait à 10 réalisateurs de choisir un morceau et de l'illustrer comme bon lui semblait et il filait 1000, c'était pas 1000 euros, c'était 1000 dollars, mais c'était une carte blanche totale, c'est-à-dire qu'il voulait même pas savoir, il recevait par la poste le fichier image et il voulait rien savoir. C'est une liberté qui a des mauvais côtés, enfin, comme toutes les libertés, mais qui changeait drastiquement le lobe du cerveau par rapport là d'où je venais en maison de disques. Donc il y a eu ce truc-là et c'était une époque où il y avait beaucoup de groupes avec qui j'aurais bien aimé travailler, qui n'avaient pas beaucoup de moyens. C'était l'époque de MySpace et il y avait pas mal de contacts qui s'étaient créés. Et donc voilà, on a lancé ce truc-là de 1000 euros, un clip. Sans garder l'idée de la carte blanche, de 100% de carte blanche, c'était juste la différence, c'est que c'était un rapport normal, c'est-à-dire des groupes qui aimaient mon travail, qui venaient me demander des images, qui du coup me donnaient la confiance aussi. Alors qu'avec les maisons de disques, on avait complètement perdu ce truc-là, parce qu'en fait, une maison de disques essaye de vendre tel réalisateur à tel groupe, il y a des appels d'offres comme en pub, ce qui ne veut rien dire. Un groupe devrait être, devrait savoir normalement s'ils aiment telles images, et puis ensuite ils font confiance à la personne, ce qui est normal. En pub, je veux bien qu'il y ait des appels d'offres quand on cherche le... Puis en plus, ils sont rémunérés, etc. etc.
Et du coup, n'importe quel groupe peut te contacter pour avoir un
ouais,
clip
ouais,
à
tout
nouveau.
À fait.
Et
ouais,
tu sélectionnes les groupes ?
Je suis censé ne pas sélectionner, mais non, je devrais normalement ne pas sélectionner, parce que ça, c'est un autre truc qui était important avec le CD. Puis moi, c'est un truc qui a été très important dans l'histoire pour moi de mes clips. C'était le moment où j'ai compris trop tardivement, d'ailleurs, que mon travail, c'était pas du tout... d'aimer la musique, pas du tout, enfin que c'était pas ça pour arriver à faire quelque chose de bien pour le groupe, c'était pas du tout le critère principal, sauf que moi j'avais eu le côté enfant gâté à faire tous les 10 premières années, c'était que des trucs, bon, j'étais fan de Noir Désir, j'aimais beaucoup ce groupe, quand j'ai fait les Tugs, les Witches Valley, c'était tous les groupes que je préférais, les trois premiers clips que j'ai fait, c'était honnêtement les trois groupes que je préférais à ce moment-là.
Quelle chance.
Mondialement. Voilà. C'est comme si j'avais fait pour d'autres, je pense les Beatles, les Stones, mais vraiment, je le dis, c'est fin 80, c'était, j'aimais les Witches Valley plus que tout, c'était un groupe que je venais de découvrir, mais vraiment, je mettais très très haut, c'était pour moi le plus haut, les Tugs, c'était magnifique, et Noir Désir, c'était, voilà. Donc les trois premiers, c'était un luxe total, et il y a eu du coup une mauvaise compréhension du travail, en fait, parce que j'ai cru que voilà, bah, c'était ça, super. J'ai refusé énormément quand Noir Désir et Cancer du succès. J'avais plein de propositions de Barclay, des trucs j'ose même pas dire parce que tellement que
Céline Dion.
Non, c'est pas ça. C'est pas le problème tellement de. C'est l'argent que j'aurais gagné, surtout, je pense, ou même à quel point ça aurait changé.
Quand on parle des clips de Noir Désir, j'ai vu que c'était 200 000 euros, non, un budget.
Non, ça a pu monter sur 200 000 euros. Le dernier qu'on a fait, c'était Lost, ça avait coûté ça, 200 000 euros.
C'était l'appelage de Super 8, hein, quand même.
Ouais, il n'y en avait plus, ouais. Il n'y avait plus de Super 8. Mais c'est un clip extrêmement mal produit par moi. Hein. Et l'argent n'a jamais été aussi mal
I
dépensé.
Am lost.
C'était très, 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 très mal dépensé comme argent. C'est totalement indécent. C'est pas pour d'autres choses, c'était pas un mauvais clip, mais.
D'ailleurs,
c'est
un clip où il y a une verge en érection.
Oui, un très gros plan. Je pense que c'est le seul plan réellement pornographique qui soit passé à des heures de grande écoute. Mais c'est, vraiment, c'était tellement
c'était
gros plan.
Très,
que...
très gros plan. On voit une veine.
Ouais, on voit la veine. Ouais. C'est un plan vigoureux.
Et du coup, alors, on disait le passage de clip très cher à clip pas cher.
Ouais, plutôt mieux. Enfin, j'ai plutôt plus de liberté. Voilà, Lost, je pense, c'était vraiment l'apogée du n'importe quoi en production et en dépenses. J'aurais pu faire 200 clips aujourd'hui en faisant Lost. Ça, c'est une première chose. Et surtout, je vois, voilà, peut-être que j'aurais pu apprendre par la suite, mais c'était tellement que des mauvais choix de production, que des...
On est parti de l'idée que ton boulot n'était pas d'aimer la musique, que tu devais accepter.
Ouais, ça a été plus tard, à un moment, j'avais justement, c'est pas quand les propositions, les fameuses propositions super cool que j'ai eues pendant longtemps, quand on connaît la loi, c'est-à-dire que quand on les refuse toutes, à un moment ça se tasse. Et à un moment ça s'est tellement tassé que j'avais plus rien. On me proposait vraiment, mais vraiment plus rien. Et on me proposait quelques petits trucs, et pour le coup, je n'aimais vraiment pas du tout. Et je me suis retrouvé face au mur à l'alimentaire, quoi. C'est-à-dire, est-ce que tu mets l'orgueil de côté ou machin ou... Et tout d'un coup, j'ai fait un ou deux premiers clips pour des morceaux que je n'aimais pas tellement, ou de groupes que j'aimais moyennement, machin. Et j'en étais plutôt plus content que les derniers que j'avais faits pour des groupes dont j'étais fan. Et là, je me suis dit, putain... Juste, tu te serais aperçu de ça 10 ans plus tôt. Simplement, se rendre compte que j'avais complètement déplacé l'objectif du travail. Que c'était mon travail, ce n'était pas du tout d'être fan d'eux. Pour faire un bon clip, il n'y a pas du tout besoin d'être fan du groupe.
La phrase de Bresson, 2/3 d'image et 1/3 de...
Enfin, c'était pas...
Bon, c'est pas ça, mais... c'est un peu le standard, dans le sens que... Moi, je trouve que... c'est incroyable comme le cinéma, l'image et le son pour toi sont liés, c'est extrême, je le trouve extrême.
Oui, mais justement, ça,
après,
ça
c'est prouve... dans ton histoire.
Oui, oui, oui. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on te demande de faire un clip. Ça, te dit, ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que t'as un son, on te demande de, d'écrire ce qui peut être le mieux par rapport à ce son-là. Et donc, y a, à aucun moment dans ce cahier des charges-là, il y a tu devras aimer cette musique. Il y a tu devras bien l'écouter. Essayer d'être attentif avec, de voir. Et moi, souvent, j'ai comparé ça à un travail de plus de toubib, voire ou d'avocat. C'est-à-dire que déjà, ton travail, c'est de la défendre, cette chanson. Okay. Et ensuite, c'est de voir si elle a des problèmes. Si à un moment, il y a une tumeur, quelque part, s'il y a un truc qu'il faut soigner, dans tous les sens du terme, s'il faut. Et réparer un truc, voilà. Ou essayer de voir qu'est-ce qu'elle cache comme piège ou qu'est-ce qui... Donc le travail, c'est beaucoup plus ça que de dire « Ouais, c'est super, on y va ».
Chers amis, nous approchons de la fin de cette émission. Si, David, peut-être on se dirige vers une conclusion.
pas une conclusion.
Pas
mais,
une conclusion, mais en tout cas...
Mais pour dire, peut-être qu'à un moment, on pourrait écouter quand même à la fin un morceau de Distorsion, non, c'est ça ? Enfin, qui est un groupe que tu...
Super groupe découvert par le... Alors, voilà. Quand le LCD, il n'y avait plus le critère de trouver les meilleurs groupes, machin, etc. Mais ça n'empêche pas de tomber sur des perles comme ça. Mmh. Un groupe qui a mi-chemin entre Suicide, Joy Division et...
Peut-être qu'on peut l'écouter et après, il y aura le mot de la fin alors.
Okay. Ouais, alors, indiquez-moi le chemin à suivre.
Distorsion, ouais.
Tu fermes les yeux.
Distorsion, ça s'appelle...
Tu ouvres ton cœur.
Radio Hits. Si j'ai... La chanson s'appelle... Voilà.
Et tu cries. Vas-y, crie.
C'était donc en quête de cinéma. On se retrouve dans un mois. David, alors avec quel programme ?
On peut pas partir comme ça. On a le droit à un mot de la fin. Donc, Henri Jean a continué et continue à faire des films. Et on est content. Et il a fait un très beau film qui s'appelle Lunch, qui est un film autour du désir, des filles, comme tu les appelles, sexualité, du regard d'un photographe sur des filles qui veulent être belles, se montrer, qui se découvrent. Et à Dérive, on sort le numéro 3 autour de Stéphane Voskin, qui travaille aussi autour du désir. Et du coup, pour le lancement de la revue à Marseille, nous allons projeter Lunch. Ça se passera sûrement en décembre, soit au Polygone étoilé, soit au Vidéodrome 2, qui est un nouveau lieu de cinéma qui va ouvrir à Marseille.
Très bien, très bien. Donc on se retrouve, David, le mois prochain.
Ah ben, sinon, à la radio, on se retrouve le mois prochain.
Sinon, sur dérive.tv, voilà. Toujours.
Si où ça sera autour de Robert Morin et de la COP de Montréal. Et pour voir le travail de Henri Jean, je vous conseille d'aller sur son site internet, dont l'adresse est...
Le plus simple, c'est d'aller justement sur le LCD Video System. C'est LCD Video System tout attaché à l'américaine, c'est-à-dire sans E avec S-Y, .com, lcdvideosystem.com. Et sur le LCD Video System, il y a un lien vers les vieilles choses.
Voilà.
Et comme le site officiel, il y a un lien vers le LCD. Voilà.
Merci à tous de nous avoir suivis. Donc, à bientôt. Et surtout, bonne nuit.
À bientôt. Merci Henri Jean.
Merci. Des femmes sans visage.